Pour voir l'image que les sociétés se font des sciences, on peut consulter l'image qu'elles essayent d'en donner aux écoliers en consultant les manuels scolaires. Pour sa thèse en histoire des sciences, Catherine Ratka a non seulement regardé les manuels de sciences des années 50 pour pouvoir les comparer avec des manuels scolaires des années 2000, mais elle a aussi fait la comparaison entre trois pays, la France, l'Angleterre et la Pologne.
Prendre les manuels comme un objet qui permet de travailler sur justement le rapport social aux sciences et pas tant sur la pédagogie des sciences, parce que c'est bien le détour que je fais. Hein. J'ai un objet effectivement éducatif, lié à l'enseignement, mais l'objectif étant d'étudier un rapport social aux sciences. Donc ce qu'on appelle en science studies très souvent le rapport science-société. Et ce rapport science-société est supposé avoir changé, voire pour certains s'être dégradé. Donc moi, mon objectif en prenant les années, la fin des années 1950 et les années 2000, était d'encadrer ce changement et de voir, enfin de le tester en choisissant une source qui a une diffusion large, qui à la fois incorpore un certain nombre de représentations du moment, donc c'est une manière de remonter aux représentations collectives d'un moment, et qui contribue à construire les représentations de ceux qui utilisent ces ouvrages.
Dès la première page de votre thèse, vous citez un manuel français de 1960, publié par Nathan, un manuel de classe de 4e de physique et de chimie, avec cette phrase « Songeons par exemple aux nombreux objets en matière plastique que nous utilisons journellement ». Or, les substances qui les constituent ont été entièrement créées par les hommes, et cela depuis quelques dizaines d'années seulement. Puis les auteurs citent les textiles, les filets de pêche, les tuyaux, enfin une espèce de
dénumération,
et regardez comme le plastique est partout et comme c'est formidable.
Oui.
Ce qui trahit deux choses qui sont un peu passées en désuétude, c'est-à-dire la confiance dans la science à produire des choses, et puis l'articulation entre la science et la vie quotidienne.
Oui, alors on peut dire les deux choses, et sur les deux choses, il faudrait
faire
nuancer.
Des commentaires, oui.
Voilà. Donc, pour ce qui est de l'articulation à la vie quotidienne, c'est à la fois effectivement un petit peu perdu, et en même temps, ça reste présent. En tout cas, c'est une injonction permanente des programmes et des discours officiels.
Sous prétexte d'intéresser les élèves, ça on en parlera tout à l'heure.
Oui, sous prétexte d'intéresser les élèves, sous prétexte de leur montrer en permanence l'importance de la science dans leur quotidien, etc. Mais c'est aussi perdu parce qu'en fait, on est, comme vous le disiez, dans un manuel de quatrième, mais on est dans un manuel de quatrième de ce qu'on appelle l'enseignement court, qui est à l'époque en France le seul type de filière où les enfants reçoivent un enseignement de physique-chimie en quatrième et troisième de ce qui s'appelle les cours complémentaires et les filières modernes courtes des collèges et lycées. Quand on est dans les années 1950, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ce qu'on appelle les deux ordres de l'enseignement se sont un petit peu rapprochés, mais on a quand même une répartition, une partie des enfants est préparé à recevoir un enseignement qui s'arrête, alors pour certains, toujours en classe de fin d'études, mais là, je ne les ai pas trop étudiés, pour d'autres qui poursuivent dans les écoles primaires et ce qu'on appelle les cours complémentaires des écoles primaires, un enseignement jusqu'à ce qu'il est devenu la classe de troisième, parce que c'est aussi ça le rapprochement, c'est que les noms deviennent un petit peu similaires, et du côté des collèges et lycées, des enfants qui vont dans des filières courtes et qui reçoivent donc un enseignement également censé s'arrêter à la fin de la classe de troisième. Et dans ces filières qui m'ont tout particulièrement intéressée, il y a un attachement très fort à la pratique, à l'articulation avec la vie quotidienne, à la fois parce qu'on considère quelque part que ces enfants ont davantage de sens pratique que d'esprit, académique, mais aussi parce qu'on considère que leur destinée sociale, c'est bien d'aller rejoindre le monde professionnel rapidement, et où en fait, ce qu'on veut, ce sont des techniciens, des ouvriers techniques, donc dans ce monde industriel, dans le monde agricole aussi, enfin on va préparer à... On apprend à planter des choses dans le jardin, à s'occuper des animaux. Les filles suivent un enseignement de puériculture, parce qu'elles vont avoir à s'occuper des enfants, bien évidemment. Et ça, ça se perd au fur et à mesure avec le rapprochement entre les deux ordres, la primaire et secondaire. Mais ça reste présent, ça reste sensible à la fin des années 1950 dans les manuels. Et ce phénomène qu'on a là en France, on l'a aussi en Angleterre, où les enfants qui accèdent uniquement depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'enseignement qui là s'appelle secondaire aussi. Il y avait un enseignement secondaire qui existait au préalable, mais dans les, ce qu'on appelait les grammar schools, donc aussi quelque chose qui est plutôt élitiste au sens intellectuel, enfin des résultats
Mais
scolaires,
ça, on
social.
l'évalue de façon différentielle précisément, puisque en Angleterre, on fait même des tests de QI, ainsi de suite, ce qu'on ne fait pas du tout
Oui,
en
ce qu'on ne
France.
fait pas en France. Mais vous avez dans les deux cas l'idée que vous avez des filières séparées pour les enfants en fonction
Et c'est en
de...
fonction de la séparation des filières que l'on va effectivement distribuer
et qu'on
des
va
enseignements plus
distribuer.
ou moins pratiques.
Exactement. Et donc, on va avoir ça aussi en Angleterre. Et en Pologne, on ne l'a pas puisqu'on n'a pas de séparation de filières, puisque, bien évidemment, tout bon Polonais des années 50 se prépare à être un communiste et donc va dans une école unique. Mais en revanche, l'idéologie communiste qui s'appuie sur une idéologie scientifique est aussi très pratique. L'idéal type qu'il faut viser, c'est l'ingénieur, pas le scientifique. Donc la science est pratique, voilà, dans le monde
Ah
communiste.
oui,
Donc
elle est proto-pratique.
elle est voilà. Donc c'est de. Et donc on va avoir aussi quelque chose de, effectivement, un lien très fort à la vie quotidienne, mais à la vie quotidienne comprise au sens de la vie domestique, mais aussi la vie quotidienne, c'est l'industrie, ce sont les débouchés
Mais est-ce
professionnels,
que ça veut dire que dans
voilà.
la partie occidentale de l'Europe, la science est proto-académique?
Dans le milieu secondaire élitiste,
D'accord.
pas dans l'enseignement qui s'adresse à la majorité des enfants.
Alors, si on fait un comparatif pour le coup entre les années 50 et les années 2000, on pourrait dire que la dimension didactique que l'on donne à cette force pratique qu'il y avait dans les années 50, elle serait remplacée aujourd'hui par d'autres astuces. Vous citez par exemple le recours à la littérature policière pour valoriser la recherche de la vérité de façon
Oui.
romanesque.
Oui, mais c'est déjà aussi un petit peu présent dans les années 50, ça.
Oui.
Cette articulation entre ce qu'on appelle d'ailleurs aussi clairement dans les programmes, hein, les centres d'intérêt des élèves et la possibilité de les faire entrer dans l'étude de phénomènes scientifiques. Et dès les années 50, il semblerait que, en tout cas, les éducateurs pensent que les élèves s'intéressent à la littérature policière et.
Mais ça, c'est un présumé complètement fantasmagorique ou...
Oh, non, je pense pas. Si vous regardez la littérature jeunesse, effectivement, il y a beaucoup d'histoires de détectives. Enfin, tous ceux qui ont travaillé sur la représentation de la police dans les milieux populaires, bon, comme Dominique Khalifa, mais il travaille plutôt sur le 19e siècle, montrent bien qu'il y a effectivement une montée en puissance de la littérature policière dans la littérature, on va dire, dans la culture populaire, voilà, pour faire simple. Et ça se poursuit, oui, dans les années 50. Il faut regarder un petit peu les magazines jeunesse. Enfin, vous regardez Spirou, ce sont souvent des petites enquêtes, en fait. Hein. Donc, on a quelque chose qui est de l'histoire de oui, la quête de vérité. C'est pas complètement faux. Après, c'est certainement. Ça a tendance à faire émerger des stéréotypes et à passer sous silence peut-être des centres d'intérêt plus diversifiés.
Oui, ça, ce serait presque une permanence pour le coup. Vous citez l'exemple de l'histoire de l'éclipse de Colomb comme effectivement quelque chose qui traverse les époques, comme façon de populariser l'astronomie.
Oui, tout à fait. Il y a des permanences. Et ce que moi je trouve remarquable, c'est que souvent dans le discours didactique actuel, pour ce qui est, disons, de toutes les injonctions pour motiver les élèves, etc., on fait comme si c'était nouveau. Alors que ça fait longtemps, en quelque sorte,
Qu'on se pose la question.
qu'on se pose la question que, d'une manière peut-être parfois instinctive, mais également théorisée, la question des centres d'intérêt des élèves, c'est l'entre-deux-guerres, hein, c'est théorisé dans l'entre-deux-guerres, notamment avec l'école nouvelle. Enfin, moi, tel que je le vois à travers les manuels scolaires, il y a une volonté explicite qui est d'intéresser les élèves à l'enseignement. Après, donc, on est dans les années 1950. Il faudrait voir dans quelle mesure et comment ça, si
Ça se
oui,
perpétue
ça
vraiment.
se perpétue. Est-ce que au 19e siècle, les fameux manuels de la Troisième République font un effort de ce type? En tout cas, ce n'est certainement pas une nouveauté de la fin du 20e siècle, début 21e siècle. En revanche, ce qu'on constate, enfin, ce qui est mis en avant par le milieu éducatif didactique, c'est l'échec de l'école à faire ça. Mais c'est peut-être pas. On n'a pas un public qui est forcément
Mais
prêt à
si
participer.
les
Donc,
recettes évoluent en efficacité, c'est aussi que la science n'est quand même plus la même. Vous dites par exemple que pour l'enseignement de la physique et de la chimie, on recourt dans les années 50 à l'univers de l'alchimiste, à la dimension aussi aventurière que peut avoir la recherche scientifique, ce qu'on peut faire un peu moins aujourd'hui, puisque alors vous relevez par exemple dans un manuel, le télescope pointé vers le ciel, l'œil rivé sur l'écran de contrôle, les astronomes se sont
Ça,
lancés
c'est
dans une nouvelle
21e siècle.
chasse, la chasse aux exoplanètes. C'est 21e siècle, mais c'est une image de l'activité astronomique qui est quand même très 20e siècle, voire 19e siècle, parce que les astronomes aujourd'hui travaillent surtout sur des modélisations informatiques et beaucoup moins
Oui,
sur les
mais
télescopes. Vous dites que
il a quand
l'activité
même
même...
l'œil rivé à son écran de contrôle,
C'est
donc à
vrai.
son ordinateur. Il
Oui, mais
regarde pas
il
dans
a
les
encore un
lunettes, cet
télescope. Il a
astronome.
encore un
Ah, il y en a,
télescope.
oui, heureusement qu'il y a encore le télescope, sinon on saurait même plus que c'est un astronome, ça n'irait plus du tout. Oui, non, mais pas effectivement. Arrivant dans son bureau à 8 h du matin, ne voyant plus un seul télescope, enfin c'est pas drôle. Et les astronomes ont quand même de temps en temps une expérience de la vie en observatoire, parfois sur des
Non mais
altitudes élevées qu'on peut
c'est pour
mettre.
dire
Voilà.
que voilà, pour donner de l'attractivité aux activités scientifiques, on en donne parfois une image un peu surannée.
Oui, peut-être. Et en fait,
Ce qui
plus
est un
que
problème
surannée,
nouveau,
mais mythologique, moi je dirais.
mythologique. Oui, alors ça pour le coup c'est pas nouveau.
Non, ça c'est pas nouveau. Et donc pour moi c'est une continuité. Cette question de l'intérêt des élèves et de trouver des moyens en donnant une certaine image de la science et des scientifiques en train de la pratiquer qui devraient les séduire, pour moi ça n'est pas nouveau, c'est une permanence justement et c'est ça qui crée un certain nombre de mythologies scientifiques qu'on pourrait appeler des stéréotypes, mais qui pour moi ce ne sont pas seulement des stéréotypes, ce sont des choses qui ont une fonction bien plus importante et c'est pour ça que j'ai employé le mot de mythologie.
Alors, l'une des voilà des évolutions qu'on avait amorcées tout à l'heure entre les années 50 et 2000, c'est le rapport de confiance que les sociétés entretiennent avec la science.
Oui, alors effectivement, donc dans les années 50, il y a un déploiement, une mise en scène non critique des productions technoscientifiques du 19e et de cette première moitié du 20e siècle et de ces années 50 où effectivement il y a une sorte de foisonnement d'objets techniques qu'on peut mettre en avant, photographier, décrire, étudier pour leur fonctionnement. Et ça, c'est certainement quelque chose qui nous fait dire, en tout cas, quand on regarde les textes, on dit, bon, ben, ils écrivaient des choses qu'on n'oserait plus écrire parce qu'on mettrait tout de suite, non, mais c'est pas possible d'être juste aussi enthousiaste vis-à-vis des matières plastiques, ce n'est pas possible d'être complètement enthousiaste en ce qui concerne la prospection du pétrole, enfin, des choses de ce type-là. Simplement, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on est dans un discours porté par des auteurs qui, eux, sont des enseignants et qui sont en fait incorporés, je pense, dans cette construction de pays modernes et de pays où la modernité signifie l'articulation aux sciences et techniques, au développement de l'industrie, etc. Le fait que ces auteurs mettent autant en avant ces réalisations, cela veut dire en grande partie que le public auquel ils s'adressent doit encore être convaincu de ces réalisations. Il faut les leur montrer et les leur montrer sous un bon jour. Ce qui veut dire, donc, quand on parle de la société en général, qu'il faut distinguer les forces qu'on va appeler modernisatrices, même si maintenant il y a des grandes discussions sur est-ce que cette modernité a été positive ou pas, mais on va reprendre la manière
Dont ça se formulait
dont
avant.
ça se formulait. Et c'est là où c'est intéressant de regarder des manuels destinés à un large public qui n'est pas vu par ces forces modernisatrices comme étant déjà là où on voudrait qu'il soit. Donc il faut le convaincre. Ce qui veut bien dire que quand on regarde la société ensemble, qu'elle n'est pas homogène sur ce point. Et donc, d'une certaine manière, ça rejoint des études récentes sur ce qu'ont appelé les auteurs une autre histoire des Trente Glorieuses, où on met en avant des révoltes, des alertes qui sont portées par des gens qui ne sont pas de ce milieu modernisateur. Moi, je saisis ça d'une autre manière. J'essaye de saisir une représentation collective un peu plus généralisée, un peu populaire. Mais on a bien une société qui n'est pas homogène et ça c'est important de le dire. Donc quand on parle de confiance dans la science, je dirais oui, certainement il y en a une, mais de qui? C'est pas la société comme un tout, comme un ensemble. Et maintenant, pour ce qui est de la période année 2000, alors effectivement, il y a une sorte d'interrogation qui apparaît dans les ouvrages et qui donc est mise à disposition des élèves et de leurs enseignants sur les effets d'un certain nombre de pratiques scientifiques, plutôt d'ailleurs de pratiques industrielles que scientifiques. Mais quand on regarde quel type de solution est proposé pour répondre à ces interrogations, quand on regarde comment ça s'est retranscrit dans les ouvrages, il y a différentes postures qui sont possibles. Il y en a une qui est de sortir les interrogations du cours de sciences, de dire oui, enfin ça n'est pas une question scientifique finalement, c'est une question morale, etc. Donc c'est pas la science
Ah oui,
qui
allez voir le
mange.
prof de philo.
Allez voir le prof de philo,
D'accord.
allez voir votre prof d'histoire, ou réfléchissez-vous, faites voilà. Mais dans le fond, la science vous produit les faits. C'est un petit peu une attitude qui est plus nuancée, mais qui revient un petit peu au même. Finalement, en y réfléchissant, en France et en Angleterre, parce que en France et en Angleterre, on va essayer de conduire dans certains espaces du manuel qui correspondent à des espaces de cours, de conduire les élèves à débattre. Alors après, on peut se demander de quoi ils débattent, mais en tout cas à discuter d'un certain nombre de difficultés. Mais on va leur surtout leur apprendre à débattre avec des arguments qu'on va juger légitimes. Or, les arguments qu'il va falloir mettre en regard les uns des autres vont être des arguments produits par les sciences. Les sciences dures, mais aussi sciences humaines et sociales parfois. Et donc, finalement, ce qu'il va falloir juger, c'est de la hiérarchie à mettre entre ces arguments scientifiques.
On mêle en cause la science, mais toujours avec des arguments qu'on ne prend qu'à la science.
Qu'on ne prend qu'à la science, donc il n'y a que la science qui est légitime. Et finalement, ce qu'on va mettre en cause, c'est un problème qui va pas être tellement considéré comme scientifique, mais un problème lié à un excès de quelque chose. Et la seule manière de le traiter d'une manière légitime, ça va être de le faire avec des arguments pris à la science. Donc la science comme institution, à mon avis, elle est loin
D'être remise en
d'être
question.
remise en question, en fait.
Simplement, vous avez quand même noté une grosse différence, et pour le coup de façon assez homogène, de posture énonciative, et notamment sur les questions de santé. C'est-à-dire que on fait toujours porter au manuel scolaire une dimension éducative en matière sanitaire, mais on le fait avec une posture énonciative beaucoup moins moralisatrice et avec des enjeux peut-être plus ramassés. Vous prenez l'exemple de l'alcoolisme, qui est très parlant.
Oui, alors ça revient dans le sens de ce que je vous disais, à
Absolument.
savoir que la science
Est toujours
est
présente,
toujours
mais
présente
autrement.
et autrement, mais peut-être d'une manière encore plus nette, parce qu'un argument qui pouvait être porté sur l'alcoolisme, effectivement, pour contrer l'alcoolisme sur un plan moral, un certain nombre d'auteurs, donc, et ça va être notamment en France et en Angleterre, ne vont plus adopter cette posture morale. C'est une posture qui est considérée comme étant délicate à tenir en classe à l'heure actuelle, où l'enseignant ne peut plus se permettre d'avoir cette posture d'autorité. Il est là comme enseignant de science. Mais par contre, du coup, ce qui ne va pas être remis en cause, c'est la validité scientifique de ces arguments, qui, eux, conduisent de toute façon à prôner une absence de consommation d'alcool généralisée. Donc, la morale n'étant plus là comme possibilité pour faire passer un message éducatif, c'est la science qui va prendre à sa charge ça. Et en fait, vous avez déjà quelque chose qui est de l'ordre de cette scientifisation dans les années 1950, puisque la propagande anti-alcoolique est à ce moment-là en France à la charge donc de l'enseignement de sciences naturelles. Si vous regardez comment c'était au début du siècle, c'était dans le cours de morale. Cours de morale, cours d'éducation civique. Petit à petit, ça passe dans le cours de sciences. Ce qui ne veut pas dire que la manière dont les auteurs en parlent n'est pas morale. Elle est hautement morale et c'est d'une manière explicite. Dans les années 2000, le discours se présente comme beaucoup moins moral, enfin pas moral du tout, même si derrière, bien évidemment, la science est porteuse d'une morale. Donc elle est loin d'être neutre. Mais elle est présentée comme neutre et c'est cette neutralité qui lui permet de véhiculer le message moral qu'on ne peut plus, qu'on considère ne plus pouvoir véhiculer par une position d'autorité, de maître à élève ou de professeur à enseigner, comme on dit. Donc finalement, la science a plus de poids. Elle est plus légitime et on a plus confiance en elle. Donc
Donc la boucle est bouclée.
Donc la boucle est bouclée, exactement.